Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, qui parle au nom du « nous » ? Depuis un an et le début des manifestations des Gilets jaunes, la première personne du pluriel, le « nous », s'est multipliée dans les protestations publiques. « Nous sommes tous des futurs réfugiés climatiques », disait un slogan au printemps dernier, lors de la marche du siècle pour le climat. « Nous toutes », évidemment, proclamaient les banderoles de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais de quel « nous » s'agissait-il ? D'autant que ce « nous », a la plupart du temps, refusait d'être porté par un « je », c'est-à-dire par un quelconque porte-parole, au point qu'il est légitime de se demander si une superposition de protestations commençant par nous finit par créer un nous plus grand, un nous somme toute national par exemple, ou encore un nous international, voire universel. Nous en parlerons ce soir en compagnie de nos trois invités. Mathilde Larère est historienne du 19e siècle et des révolutions, elle est maîtresse de conférences à l'université de Marne-la-Vallée et elle est autrice récente aux éditions du Détour de « Il était une fois les révolutions ». Nicolas Rousselier est historien, maître de conférences à Sciences Po, auteur de « La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France » chez Gallimard, et d'un article tout récent dans le dernier numéro du débat à propos d'un divorce potentiel entre l'État et la démocratie. Et enfin, Benoît Coquart est au téléphone avec nous, il est sociologue à l'INRA, et il est auteur d'un très beau livre qui vient tout juste de sortir, « Ce qui reste » aux éditions La Découverte.
On est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là.
On est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là.
Contre le patriarcat et la transphobie d'État, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là,
on est là. Macron le veut pas, nous on est là.
Contre le patriarcat et la transphobie d'État, même si Macron le veut pas, nous on est là.
Voilà donc le « on est là ». Est-ce que le « on » est un « nous » ? Nous en discuterons avec nos trois invités. C'est un « on est là » entendu dans les manifestations des Gilets jaunes, mais aussi en ce moment dans celles contre la réforme des retraites ou encore dans les marches organisées par le collectif « Nous toutes » contre les violences faites aux femmes. C'est un chant qui vient de chants de supporters lensois en particulier, du FC Lens. Et c'était au départ « on est là » avec... RC Lens, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit, le FC Lens, Racing Club de Lens, bien évidemment, les 100 et or. Et donc, effectivement, ça vient des stades de foot. Et puis, c'est passé par la lutte des cheminots l'année dernière, lors du combat des cheminots, pour venir maintenant, donc, dans toutes les manifestations. Bonsoir, Mathilde Larère.
Bonsoir.
Le « On est là », vous l'avez chanté hier.
Oui, on a chanté hier parce que un collectif de chercheurs et de personnel de l'enseignement supérieur et la recherche, nous sommes allés perturber une conférence à laquelle se trouvait Vidal à la station F.
La ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche. L'enseignement,
voilà. Et donc. Et d'ailleurs, comme je vous le racontais tout à l'heure, c'est joué un « nous » puisque alors que nous faisions interruption dans la salle et que on a donc interrompu l'espèce de raout qui s'y déroulait et que la prise de parole de la ministre a été d'abord de s'excuser auprès de la salle en disant « je m'excuse auprès des chercheurs », nous avons répondu en disant « les chercheurs, c'est nous, nous sommes les chercheurs, nous sommes les chercheurs ».
Et donc ce « on » de « on est là », est-ce que c'est un « nous » justement selon vous ? Est-ce que c'est un « nous » différent de quand on dit « nous sommes tous des futurs réfugiés climatiques » ou « nous toutes » par exemple ?
Cela dit, si on écoute la chanson, c'est « même si Macron ne veut pas, nous, on est là ». Donc en fait, il y a un « nous » et un « on ». C'est plutôt là un linguiste qui montrerait que le « on » est en fait une simplification et puis une forme plus populaire et plus orale de dire « nous ». Mais je pense que là, il faut la différence, elle est on va dire assez artificielle. Je pense de toute façon, le « nous », c'est quelque chose de très difficile à définir parce que c'est effectivement puissamment mobilisateur, le « nous », parce qu'il y a aussi
Pétitions commencent généralement par « nous » et avec derrière...
Alors, pas sur les pétitions sur lesquelles j'ai travaillé parce que en fait, il y avait au 19e siècle beaucoup plus de pétitions individuelles que de pétitions collectives. Elle a changé de forme au 20e siècle. Donc, et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on a énormément de pétitions qui commencent par « je », en fait, se dégage un « nous ». C'est-à-dire que Le nous, c'est l'addition de je. Il y a des tags actuellement qui disent la fin du jeu, le début du nous. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire dépasser ces problèmes strictement personnels et les difficultés qu'on peut vivre et en faire un problème collectif et donc un problème politique. Donc ça aussi qui se joue dans le nous. Après, on sait bien que on a tous beaucoup de nous. Par exemple, moi, en tant que, enfin, pour prendre mon cas, je suis un nous femme, je suis un nous chercheur, je peux être un nous membre de l'enseignement supérieur à la recherche, je peux être un nous, française, je peux être, enfin, on a tous plusieurs identités, donc on appartient à plusieurs nous qu'on active dans des combats différents.
Et Benoît Coquart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous au téléphone, donc, et vous pouvez intervenir justement sur ce nous parce que vous l'avez trouvé dans votre recherche que vous avez menée dans ce qui reste faire sa vie dans les campagnes en déclin, les campagnes de l'est de la France, où vous avez croisé un déjà nous. Qu'est-ce que entendent ceux qui vous parlent quand ils disent déjà nous?
Ceux qui me parlent de déjà nous, ce sont des ouvriers ou des employés, des hommes et des femmes qui dans les générations précédentes auraient peut-être dit nous les ouvriers, nous notre classe sociale, hein, ça a beaucoup été débattu, ça notamment à l'époque où les mouvements marxistes étaient plus imposants qu'aujourd'hui. On se demandait comment faire penser le nous à l'échelle d'une classe qui était à mobiliser. Et moi j'enquête effectivement sur des campagnes françaises désindustrialisées où il y a moins d'emplois et où on se sent en concurrence en fait avec ses semblables, avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Donc penser à un nous global comme ça, incantatoire, ça paraît impossible en fait pour mes enquêtés, et il me renvoyait d'ailleurs à la figure, comme il disait, d'un bisounours, de celui qui croyait qu'un nous global était possible. Et donc il me disait en retour, on pense déjà à nous, que nous d'abord, et ce nous plus restreint, plus sélectif, c'était celui des proches, des vrais potes sur qui compter, qui étaient opposés, effectivement. Alors déjà, c'était un nous très très spécial, où on pouvait exactement délimiter qui fait partie du nous, et un nous qui s'était construit vraiment dans le conflit, dans le sentiment que tout le monde ne pouvait pas être inclus dedans.
Parce qu'on vous disait, lorsque vous avez commencé votre enquête en 2010, en tant que sociologue, on vous disait « tout le monde se fout de nous ».
Oui, aussi, on avait l'impression que personne viendrait nous poser un nous qui nous servirait, qui serait utile, en fait. Donc, on se rattache à quelque chose, à une appartenance, à un sentiment d'appartenance qui est créé à partir de rapports très matériels, très quotidiens. C'est-à-dire que le nous, c'est ceux avec qui on est objectivement allié, avec qui on a des stratégies amicales, mais aussi d'entraide sur le marché professionnel, qu'on se recommande les uns les autres pour trouver un emploi, pour se débrouiller, faire des chantiers, par exemple, de travail au noir. Donc voilà, il y a cette opposition-là entre des grands nous incantatoires, finalement, qu'on essaye de dessiner, hein, en politique, et finalement le nous de la pratique, qui lui est constitué des concurrences et des alliances directes, celles qu'on vit au jour le jour.
On est très loin, Nicolas Rousselier, bonsoir. On est très loin de ce sur quoi vous travaillez, les constitutions en tant qu'historien, maître de conférences à Sciences Po, ce que vous avez essayé de comprendre à travers gouverner, donc la force de gouverner le pouvoir exécutif en France, ce très beau livre que vous avez fait il y a maintenant 4 ans aux éditions Gallimard, de ces grandes déclarations d'intention que l'on pose dans la Constitution. We the people, ça c'est aux États-Unis, ou nous le peuple, c'est donc pour les constitutions françaises, le peuple français, etc. On est très loin de ce que décrit Benoît Coquart.
Oui, on est sur une sorte d'échelle avec beaucoup de degrés d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que le nous social dont on parle du point de vue sociologique peut être effectivement assez homogène, assez fort, ressenti directement. On peut parler des nous des supporters de football, par exemple. Et dès qu'on passe à des degrés politiques, on pourrait dire la politique, je n'aime pas le mot incantatoire qui a été utilisé, il est un peu péjoratif, mais c'est sûr que la politique introduit l'écart et introduit un certain degré entre le représenté et le représentant. Mais on a ici l'artificialisme qu'on a à chaque échelon de la politique. Si on prend l'échelon tout à fait supérieur, on l'a vu aujourd'hui, ou plutôt hier, avec par exemple les élections britanniques. Dès que Boris Johnson a eu sa majorité, a connu sa victoire, il n'a plus parlé du nous conservateur, il a dit le peuple britannique, voilà, les British ont voté, nous ont donné un mandat. Et quand un président américain est élu, son premier discours, c'est pour dire « Je suis maintenant le président de tous les Américains ». Donc là, on a un artificialisme qui était aussi vieux que la démocratie électorale, la démocratie représentative, puisque on est élu par quelques-uns, mais ensuite on doit parler pour tous, on doit gouverner pour tous. Cet écart, cet artificialisme, il faut pas l'entendre d'une manière uniquement négative. On sait bien qu'il creuse la suspicion démocratique, mais en même temps, on reprocherait à un Premier ministre britannique, on reprochait à un président français, de ne pas gouverner pour tous. Donc une fois qu'on est dans le gouvernement, dans la force de gouverner, c'est bien ça qui se passe. On peut reprocher au fond à quelqu'un de gouverner que pour son parti ou que pour ceux qui l'ont élu. Donc là, vous avez cette tension constitutive de la politique par rapport à sa source démocratique. Mais c'est vrai aussi pour un parti ou pour des simples représentants. Prenons un exemple concret par rapport au problème des chercheurs et des mobilisations qui se passent. Et j'essaye de dire ça un peu avec humour. Si par exemple mes collègues, pour revendiquer quelque chose en tant que chercheur, me choisissaient moi comme porte-parole, comme représentant, ils feraient une énorme bêtise, pour rester poli, parce que moi je parle difficilement en public, je perds souvent mon calme et je serais un très mauvais représentant. Donc on voit bien qu'aussi, dès qu'il y a une question de représentation, il y a une question aussi de sélection qui se fait sur la présomption de compétences. Et les personnes qui ont été enquêtées par le sociologue...
Benoît Coquart.
Voilà, Benoît Coquart, je cherchais son prénom. Probablement, c'est ça, c'est que dès le départ, ils ne se voient pas, ils ne se construisent pas, comme on dit pour un appartement, ils ne se projettent pas sur autre chose que leur nous.
Et il y a tout de même quelque chose de très fort, Mathilde Harrère, et on l'a beaucoup dit depuis un an et le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette idée que ce nous qui se construit dans la manifestation, dans la protestation, dans parfois les violences dont on a parlé d'ailleurs dans une émission précédente, ce nous de l'émeute, c'est un nous qui ne veut pas de jeu pour pouvoir porter la parole. C'est un nous en tout cas qui refuse que quelqu'un porte la parole. Ça, c'est peut-être assez nouveau que de voir justement cette résurgence, parce que ça a existé plutôt dans l'histoire, mais de cette résurgence, de cette volonté de ne pas avoir une personne qui porte la parole pour tous.
Oui, alors c'est quelque chose que l'on voit quand même depuis un petit bout de temps. C'était très net dans les mouvements Occupy, hein, c'est-à-dire que c'est là où on commence à le sentir poindre.
C'est disait, nous sommes les 99%.
Voilà, c'est ça.
En disant, ouais. Le 1% restant, c'est les plus riches, c'est ceux qui sont en dehors de nous.
Mais là, en fait, c'est la conséquence d'une crise démocratique et de la démocratie représentative qui a fait perdre confiance dans les élites qui étaient donc représentatives, parce que justement on les considère comme plus représentatives, et donc ça donne actuellement ce type de, même si au bout du compte il y a quand même eu un certain nombre de porte-paroles qui ont été avec des processus d'ailleurs de désignation différents, parce que la vraie question de tout ça, c'est comment on désigne celui qui va être le porte-parole. Il y a un certain nombre de gilets jaunes qui ont été désignés par les assemblées, par les ronds-points, et dans ces cas-là ils étaient considérés comme légitimes, à condition évidemment de pouvoir redéfinir par ailleurs, et des fois...
Oui, parce que c'est toujours en mouvement.
Oui, c'est en mouvement, mais pourquoi pas finalement. Ce qui a posé plus problème, c'est soit ceux qui étaient autoproclamés porte-parole, ou ceux qui étaient fabriqués par les médias, parce que leur phrasé, leur habitude, leur charisme, finalement correspondaient plus à la société du spectacle qui attendait de ces porte-paroles qu'ils soient soit fort en gueule, soit qu'ils correspondent à ce que l'on voulait dire à ce moment-là du mouvement des Gilets jaunes.
Benoît Coquart, il y a un autre nous qu'on retrouve dans votre livre « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin » aux éditions de La Découverte, c'est le « on est chez nous ». Alors c'est un nous qui est peut-être moins désirable d'une certaine façon que le nous qui appelle à l'universel, qui appelle au rassemblement, qui appelle à la politique, etc. Le « on est chez nous », c'est une autre version qui est une version, disons, plus restreinte, où on dit « eh bien, on est chez nous » et donc les autres ne peuvent pas toujours y venir, Benoît Coquart.
Oui, parce que revendiquer en fait une forme de possession d'une identité territoriale, se l'approprier, c'est aussi revendiquer simplement la capacité à décider soi-même de son style de vie, de ce qu'on y fait. Et ça, il me semble que c'est très fort, notamment dans les classes populaires rurales que j'enquête, pour revenir à votre débat précédent, qui ne se sentent pas en fait représentés par un nous légitime. C'est-à-dire que on l'a retrouvé aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, et ils ont l'impression d'être parlés par d'autres qui ne connaissent pas leur quotidien et qui s'approprient d'une certaine manière leur vécu pour l'instrumentaliser. Alors soit ils s'intéressent pas du tout à ces discours-là, soit justement ils les trouvent hors sol et ils voient l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Et du coup, le « on est chez nous », c'est de dire « bon, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez ailleurs, mais au moins dans notre cadre de vie, là où il n'y a pas grand monde qui vient d'ailleurs, et c'est des départements qui se dépeuplent, etc., eh ben, on a une forme d'autonomie culturelle. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, valoriser des styles de vie qui ailleurs seraient probablement ringardisés.
La mais chasse, là, en tout cas, par exemple.
C'est pour ça que j'entends des phrases comme « ici c'est la Corse sans la mer » ou ce genre de choses qui renvoient à des identités insulaires qui finalement restent une forme de valorisation, d'honorabilité pour ces milieux populaires-là qui sont dévalorisés à grande échelle, à l'échelle nationale, mais qui peuvent encore dire « nous » à l'échelle locale. Et je pense que ça reste très important.
Et à l'échelle nationale, il y a tout de même un repoussoir, un « eux » qui n'est pas le « nous » en question, c'est Paris. Paris, jamais de la vie.
Ouais, voilà, c'est justement la ville où on serait moins protégé par une interconnaissance, donc un nous dans lequel on peut appartenir, être reconnu, parce que pouvoir dire nous, c'est pas simplement pouvoir reconnaître le groupe auquel on appartient, c'est pouvoir être inclus dans un groupe qui nous donne de l'importance. Et ce qui est intéressant quand vous étudiez différents espaces ruraux comme ça, où effectivement les classes supérieures sont peu représentées, mais il y a beaucoup de classes populaires, ben on valorise des figures de réussite qui sont des femmes employées, des hommes ouvriers, des artisans, donc des figures professionnelles qui, si elles étaient en ville, elles seraient beaucoup plus anonymes, possiblement précarisées, et elles pourraient beaucoup moins dire fièrement nous. Elles se rattacheraient moins à un groupe qui, à l'échelle locale, est honorable. Et voilà, il y a des enjeux du coup de définition là qui renvoient vraiment à l'idée que on n'a pas ces groupes-là ne se sentent pas légitimement représentés par ceux qui ont accès à la parole médiatique, aux sphères culturelles, et de fait, objectivement, on leur donne un petit peu raison, puisque en fait, si on prend leurs caractéristiques sociales, venir de classe populaire, loin de Paris, ben on retrouve peu ces profils-là dans les personnes qui prennent la parole généralement pour définir ce qu'est le nous.
Ouais, c'est le qui va lire un bouquin qui parle de nous, vous dit Vanessa, par exemple.
Oui, mais ça, c'est l'enjeu, justement, qu'il y a à mon avis, les représenter et leur donner la parole. C'est que c'est des strates de la population qui sont tellement éloignées, en fait, des milieux, notamment culturels, mais aussi de manière générale des classes dominantes, qui n'ont l'impression de pas être dignes d'intérêt. Alors même qu'en fait, aujourd'hui, depuis les Gilets jaunes, et même avant, avec la progression, par exemple, du vote FN, il y a eu beaucoup de regards qui étaient braqués sur ces territoires-là.
Oui, vous avez d'ailleurs fini votre enquête au tout début du mouvement des Gilets jaunes, et ça ouvre d'ailleurs votre livre « Ce qui reste ». Nicolas Rousselier.
Oui, moi ce qui me frappe, c'est on parlait tout à l'heure de l'échelle, et il semble effectivement qu'il n'y ait plus d'échelle. C'est-à-dire qu'entre le « nous » très local, très fort, très comment dire, si on comprend bien cette enquête de sociologie, ce « nous » est aussi toute une ressource positive pour les membres. Entre ce « nous » très local et finalement directement ce qui se passe à Paris, sur les Champs-Élysées, pour les manifs, ou le pouvoir au sommet, l'échelle est tombée, a glissé sous les pas de la République. C'est-à-dire que l'échelle, ça pouvait être aussi bien le fait qu'il y avait un minimum de confiance dans le maire, un minimum de confiance dans le conseiller général.
Voir le préfet.
Le préfet aussi, bien sûr, le préfet. Et que, bon an, mal an, avec des frictions, bien sûr, il y avait quand même cette échelle qu'on pouvait gravir. Et c'est aussi l'échelle que gravissait le cursus honorum des hommes politiques. À l'époque, il n'y avait que les hommes. Je pense à la Troisième République que j'ai pas mal étudié. Et ça, c'est en train de se défausser. Donc finalement, le nous par le bas, il est d'autant plus fort, il est d'autant plus sanctuarisé que c'est tout de suite la société du spectacle, je suis d'accord bien sûr avec ce terme, et les médias, mais les médias dans lesquels une sorte de trappe qui peut aussi s'ouvrir aux pseudo-porte-parole, par exemple des Gilets jaunes ou de certains mouvements, parce que le nous de tous ces mouvements, c'est un nous qui est aussi fragile que les institutions républicaines. Ouais.
Parce qu'il est toujours rejoué.
Bah, bien sûr, et puis c'est ceux qui disent nous, mais par exemple, aussi bien pour le mouvement Occupy, absolument tous les mouvements sont confrontés au même problème. C'est un nous qui parle, mais en termes de personnes réellement présentes, qui disent on est là, c'est beaucoup moins que ceux au nom de qui ils parlent.
Mmh. C'est d'ailleurs ce que disait Tristan Garcia dans son beau livre qui s'intitulait d'ailleurs « Nous », c'était il y a 3 ans chez Grasset. Le nous est une forme à la fois libre et déterminée, c'est-à-dire on la détermine, on dit qui est dans le nous, mais en même temps c'est une forme libre qui peut s'adapter à tout un tas de situations. Mathilde Larrère, Quand vous écrivez « Il était une fois la révolution » aux éditions du Détour, vous y mettez, pages 46 et 47, l'hymne des femmes qui commence par « Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, les femmes ».
Oui, alors c'est vrai que... Parce que le « nous », en fait, c'est à la fois quelque chose qui peut être très incluant, on se sent dans le « nous », voilà, mais c'est quelque chose qui est aussi profondément excluant, ben, puisque finalement, notre « nous » s'arrête là où commence le « nous » des autres, hein, si on veut paraphraser le terme sur la liberté, mais ça marche aussi sur le « nous », et qui peut être très invisibilisant, parce que on est finalement très souvent appelé à se fondre dans un « nous ». Et pour reprendre la question des femmes, les femmes, par exemple, ont été appelées à se fondre et à disparaître et à accepter une forme d'invisibilisation.
Donc il a fallu un moment qu'elles disent, c'était Pankhurst, Emmeline Pankhurst qui disait « Vous ne pouvez pas nous localiser et vous ne pouvez pas nous arrêter », disait-elle. Ces femmes, c'était au tout début du siècle, du XXe siècle,
mais elles ont dû exister dans un peuple politique plus large qui leur donnait peu de place et les représentait peu. Elles ont dû exister comme ouvrières dans la classe ouvrière. Elles ont dû, mais en même temps, ce nous les femmes ne doit pas non plus masquer qu'à l'intérieur il y a différents nous. Il y a nous les femmes de classe populaire favorisée ou défavorisée, ou nous les femmes blanches et nous. Et en fait, il faut faire attention parce que le nous a aussi très souvent un gros pouvoir d'invisibilisation. Le problème s'est d'ailleurs posé autour de nous toutes, où il y a eu, à la fin du cortège, d'autres cortèges qui disaient vraiment nous toutes, pour dire que le
nous toutes
n'était pas assez.
Et puis il y avait des nous toutes qui disaient oui, mais les hommes peuvent entrer. Donc c'était nous toutes avec les hommes, par exemple, effectivement.
Bien sûr.
Et la rue, elle est tranquille !
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Oui, nous avions dans ce montage, donc réalisé par Alexandre Manzanares, à la fois et la rue, elle est à qui, elle est à nous, mais aussi We are the 99%, donc nous sommes les 99% des mouvements Occupy, ou encore Wir sind das Volk, nous sommes le peuple, aussi celui de 1989, donc au moment de la chute du mur de Berlin, dans les manifestations qui se tenaient, par exemple, du côté de Leipzig, Mathilde Larrère.
En fait, là, le point commun de ces nous que vous présentez, c'est que c'est des nous finalement exclus du pouvoir politique. Ouais. La rue, elle est à nous, ça veut dire c'est justement l'irruption de ceux qui sont exclus de la vie politique dans l'espace public qu'ils se récupèrent. Enfin, 99% quelque part, c'est ça aussi, avec en plus l'idée que dans ce 1%, il y a du pouvoir économique et politique qui se mêle. Mais c'est ce nous-là des exclus des sommets où se décident politiquement et économiquement les choses. Il y a d'autres nous, évidemment, mais c'est ce nous-là là, qui se retrouve là.
Oui, Nicolas Rousselier.
Oui, moi je voudrais parler, pour, élargir la question, je voudrais parler de la transformation de la démocratie, hein, mais rapidement.
Allez-y.
C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une démocratie des politiques publiques. C'est-à-dire que beaucoup plus que la loi votée au Parlement, entre parlementaires au chaud, au fond, la démocratie s'oblige aujourd'hui à développer un processus beaucoup plus compliqué que quelqu'un avait appelé les labyrinthes de l'action publique, qui peut être un processus très long sur plusieurs années où on va consulter, au mieux concerter, au mieux encore co-construire. Parfois, c'est une simple concertation, de la poudre aux yeux, nous sommes d'accord. Mais c'est le modèle de la politique publique. Et le modèle de la politique publique, au fond, fait sortir la loi du Parlement. La loi devient un process, un flux, qui peut être divisé en plusieurs décisions façon salami, on coupe la décision en plusieurs morceaux. Et au fond, dans ce parcours, c'est comme un parcours d'obstacles, c'est pas souvent très difficile, et ce parcours va venir frapper à la porte d'associations, de représentants, bien sûr des syndicats, des partenaires sociaux à l'ancienne, mais aussi des associations écologistes, des représentants des mouvements des femmes, etc. Donc au fond, la politique publique a cette vertu, ça marche ou ça marche pas, cette vertu de vouloir associer beaucoup plus d'acteurs qu'auparavant, beaucoup plus de petits nous qui est qu'auparavant.
Pour en faire un
Donc
grand,
moi, je peut-être. Ne pense pas qu'il s'agit d'exclus. Au contraire, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont inclus par, si vous voulez, le ray, le filet de la politique publique, que chacun a sa petite légitimité. Mais cette petite légitimité, elle n'est pas forcément liée à un mouvement social qui a un succès pour des raisons sociales. Il peut aussi avoir un succès du fait qu'il est désigné comme acteur légitime par l'État, par la politique publique. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez d'exclus de la politique. Ils sont au contraire très visibles, et peut-être tant mieux, et pas peut-être, j'enlève le peut-être, ils sont plus visibles, ils sont plus actifs.
Ils ont la sensation d'être exclus.
C'est plutôt, oui, parce que l'argument d'être exclu est super bankable.
Et il faut dire d'ailleurs, Benoît Coquart, que c'était une surprise que de voir surgir sur les ronds-points dans vos régions de l'Est de la France désertifiées que vous décrivez dans Ceux qui restent, de voir surgir justement un nous collectif. Vous avez vous-même été très surpris de les voir sortir, manifester au moment des gilets jaunes, alors qu'ils disaient eux-mêmes « nous n'avons plus la parole, nous ne l'aurons plus jamais » et qu'ils la prennent d'une certaine façon.
Oui, mais c'est là où il faut s'intéresser aussi à qui sont ceux qui ont réussi à fédérer sur le long terme des liens entre gilets jaunes, justement, pour se sentir solidaire et passer l'hiver sur les ronds-points, dans le froid. Et on se rend compte que très tôt, entre eux, ils s'appellent la famille. C'est devenu des bandes de copains, eux aussi, avec des liens très forts. Et justement, ça a permis à pas mal de monde qui ne pouvait pas forcément faire partie des groupes les plus intégrateurs où on pouvait dire fièrement nous, bah de là de se rattacher à une appartenance aussi valorisée où on lutte ensemble et à mon sens c'est quelque chose qui a permis aussi la pérennité du mouvement malgré toutes les problématiques auxquelles il a dû se confronter. Et puis je voudrais réagir sur ce qui a été dit avant. Moi je trouve ça très intéressant. C'est l'idée aussi qu'il faut rappeler que la réalité économique derrière, elle permet plus ou moins de dire nous. Par exemple, il y a les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot qui étudient la haute bourgeoisie, qui montrent bien comment dans ces classes sociales ultra dominantes, le nous, il s'impose de fait, qu'il y a une conscience de classe très forte, alors même qu'elle est beaucoup plus délitée dans les milieux dominés. Et de la même manière, par exemple, dans les milieux ruraux désindustrialisés, du temps où, justement, il y avait un tissu social fort, le plein emploi, des associations, des liens paroissiaux, enfin plein de choses, des clubs de sport, il y avait un nous villageois qui était beaucoup plus fort, on faisait tout à vélo, tout le monde se connaissait, on faisait groupe.
Vous racontez effectivement cette nostalgie, ce regret du passé, et vous expliquez aussi combien le délitement de ces liens, de ces fêtes, en particulier de ces balles où il n'y a plus que les cassos, disent ceux qui n'y vont pas par exemple, parce qu'ils ont tout de même aussi un extérieur à eux, ces cassos justement, ces cas sociaux qu'ils décrivent comme étant différents d'eux-mêmes, ils voient bien que ces balles ne sont plus fréquentées par eux, que par eux.
Oui, mais ce qui est difficile, c'est justement de trouver des tiers lieux et des activités qui, quand vous avez plus les collectifs d'emploi et les inégalités au sein même, par exemple, des milieux ouvriers, elles augmentent entre les précaires et les stables, de refaire groupe et de redonner le sentiment d'être à peu près tous dans le même bateau. Alors que là, l'objectivité des rapports sociaux, c'est de voir qu'on est en concurrence pour un emploi. Lorsque quelqu'un part à la retraite, on est trois à postuler. Mm-hmm. Les trois qui postulent, on les connaît tous. Donc, dire.
Vous racontez l'histoire de plombiers, par exemple, qui se font la gueule alors qu'ils étaient amis d'enfance parce que la collectivité en a employé un et pas l'autre.
Voilà, exactement. Et donc là, le nous, évidemment, il va se saborder. Et la dernière chose aussi à rajouter là-dessus, je pense que c'est que du coup, il y a tout un tas de personnes, notamment les plus précaires, qui sont obligées d'endosser une image d'eux-mêmes qui est produite de l'extérieur, qui sont stigmatisées, qui sont renvoyées à la figure du chômeur de longue durée, du feignant. Donc eux, s'ils disent nous, ça veut dire qu'ils endosseraient finalement le stigmate et l'insulte qu'on leur administre même au quotidien, en fait. Donc ils ont tout intérêt à se désolidariser de ça et à se penser que comme un individu. Pour avoir envie de dire nous, il faut trouver des choses en fait honorables dans son statut social. Et c'est là où la montée des inégalités, elle se fait ressentir en fait.
Nicolas Rousselier.
J'aimerais bien poser une question en fait à Bruno Coquart. Comment vous expliquez que le nous social dont vous parlez, dont vous montrez qu'il est très fort, qu'il est chaleureux, jusqu'à une certaine limite, parce qu'il peut aussi y avoir des divisions, des bisbilles, comment ça se fait que, en fait, ce nous social ne puisse pas passer à un nous, je dis pas supérieur en termes hiérarchiques, mais justement dans un nous qui serait plus politique. Est-ce que, par exemple, Le maire, la municipalité, le conseil municipal ne peut pas jouer ce rôle-là dans certaines décisions qui restent extrêmement locales. Est-ce que le conseil général est tout à fait un horizon totalement perdu? Je ne parle même pas du conseil régional, puisque les régions ont totalement changé de taille, donc elles sont maintenant évidemment invisibles par leur grande taille. Comment pouvez-vous expliquer ça? Parce qu'il me semble, en vous écoutant, que vous êtes dans une perspective, si je peux me permettre, qui me semble être une analyse, si vous voulez, purement sociologique, je dirais, d'un fait social. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi on n'a pas un passage aux politiques.
À mon avis, on en a des passages aux politiques. Simplement, ils sont beaucoup plus diffus. Par exemple, il est difficile pour les jeunes ouvriers, employés que je rencontre, de se sentir partager des conditions d'existence et des proximités avec leurs élus qui viennent pas du même milieu social que eux. De fait, même si vous êtes simplement au niveau d'un conseil général, d'un conseiller général, par exemple, il y a de grandes chances qu'ils appartiennent à la petite ou moyenne bourgeoisie locale, alors même qu'on est dans les campagnes industrielles sur des secteurs qui concentrent entre 70% d'ouvriers et d'employés cumulés. Donc. Et ensuite, il y a quand même des formes de récupération de ce « nous d'abord », moi j'entends le « nous d'abord », quand on est sur des territoires où le vote FN est enraciné depuis les années 90 et où il ne fait que progresser, on ne peut voir que les échos qui peuvent se produire avec les Français d'abord, de l'extrême droite, du RN, et qui fait effectivement écho. Et certains me disaient « ben oui, mais voilà, finalement, elle est la seule à dire que ça pète un peu quand même partout » et que donc c'était, si je traduis un peu leurs propos, c'est que ce « nous », il se définit dans la conflictualité et qu'il y aurait simplement un tableau conflictuel du monde qui vaudrait pour penser le « nous ». Et il ne pourrait pas, à leurs yeux, se définir de façon positive. Et alors là, on peut l'interpréter comme on veut, mais on peut voir que les discours qui pouvaient promouvoir un « nous » ailleurs dans l'échiquier politique, et notamment à gauche, ils sont beaucoup moins diffusés aujourd'hui, notamment dans les médias dominants. On entend beaucoup moins ce type de discours, et même au sein des partis de gauche, c'est remis en cause dans certains partis de gauche. Donc évidemment que cette offre-là du « nous », d'un « nous » duquel il pourrait se saisir, qui est à la fois valorisant, mais aussi qui prend acte du conflit qui existe entre des personnes plus ou moins dotées en capital économique, etc., celui-là ne le retrouve pas. Donc il tombe un petit peu finalement dans l'escarcelle d'une vision du monde promue par l'extrême droite, mais qui a peut-être même pas fait exprès de le récupérer, en fait.
Oui, on peut dire d'ailleurs que Mathilde Larrère, le « Nous sommes le peuple » qu'on a entendu tout à l'heure dans le petit montage qui a été réalisé au milieu de l'émission, a été détourné depuis par l'AFD et par l'extrême droite allemande. C'est-à-dire que l'extrême droite reprend le terme de la libération, nous sommes le peuple, c'est la chute du mur, etc., pour dire nous sommes le peuple et donc c'est nous qui allons bientôt gouverner. Donc dans un nous, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, très excluant. Contre les immigrés, etc.
De toute façon, le nous est difficile, mais le peuple, c'est tout aussi difficile à définir. Bien sûr. Je vous renvoie au livre de Deborah Cohen.
Que nous avions à ce micro il y a trois jours.
C'est vraiment très bien parce qu'elle montre bien ça. Juste pour rebondir un peu sur ce qui a été dit à la fois par Nicolas Rousselier et par Benoît Coquart. Je vais remonter dans l'histoire, mais vous m'en voulez pas, ça fait partie de mes marottes. Quand on regarde les sans-culottes disaient nous. Dans la Carmagnole, nous sommes les sans-culottes, enfin, bon, y a pas de problème. Un nous qui est construit sur quoi? Qui est pas construit sur une homogénéité sociologique très forte. Parce qu'en fait, on sait bien que les sans-culottes étaient assez hétérogènes sociologiquement.
Il faut lire I.M. Burst, enfin, en particulier.
Ouais, tout à fait. Génial. Et par ailleurs, mais ils avaient des moyens de montrer ce nous. La cocarde, le tutoiement, une façon de s'habiller, la Sainte-Pique. Donc, il y avait des signes extérieurs d'un nous. Et de revendications communes. On va pas rentrer dans les détails. Et ce qui a fait aussi que ce nous a pu se construire, c'est parce que ça se construisait dans les sections, les 48 sections de Paris. Comment a fait le directoire, d'abord la convention intermédiaire, puis le directoire, pour casser ce nous qui était problématique en politique? Eh bien, en fait, en transformant les 48 sections en 12 arrondissements. Donc, en fait, en changeant d'échelle, justement. Et c'est là qu'on voit que le nous, c'est quelque chose qui se construit, qui est fragile, qui se construit dans le débat, qui se construit dans la rencontre, qui... C'est pour ça que c'est des nous qui sont construits sur les ronds-points, bien évidemment. Et si jamais on ouvre en donnant des espaces plus larges, alors ça peut construire. L'ADA, quelque part, est une construction, l'Assemblée des Assemblées, qui a permis de donner naissance à un autre nous, mais ça peut aussi...
À Commercy en particulier, c'était ça?
Tout à fait.
Donc c'était l'Assemblée des Gilets jaunes. Nicolas Rousselier, il y a aussi une ruse, pourrait-on dire, de la politique aujourd'hui. C'est avec la question du réchauffement climatique, avec la question de l'antispécisme qui se développe. on se pose la question de nous humains, par exemple, mais ce nous humain exclut les non-humains, et à partir de ce moment-là, on se pose la question de sauver les espèces, les animaux, mais aussi la nature, mais aussi les arbres, les pierres, pourquoi pas, etc. Donc il y a toute cette dimension, effectivement, d'une autre dimension du nous qui serait encore plus incluante et qui inclurait la totalité de l'univers vivant ou non vivant, d'ailleurs.
Oui, alors là, ça décale encore plus la notion classique de représentation, puisque la représentation, c'est la représentation des électeurs. Et là,
on voit bien qu'il y a des tribunaux qui donnent des droits aux arbres, aux rivières, aux pierres, aux montagnes, par exemple, dans certains pays.
Oui. On discute des formes de représentation qu'il serait possible d'élaborer, la représentation, effectivement, du non-humain, des choses ou de la nature. Mais on a aussi, comme on le voit actuellement, on en parle très peu en raison de l'actualité sur les grèves, mais on a la Convention citoyenne, elle est suspendue actuellement à cause des grèves et de la difficulté de transport, mais il y a la Convention citoyenne sur
on en a parlé ici,
les mesures pour le climat. Et ici, on a donc des tirés au sort, de manière vraiment aléatoire. La question qui se pose ici, puisqu'ils sont censés justement parler au nom de ces choses et de la nature, la question qui se pose, c'est est-ce que les tirés au sort, au fond, on retrouve une base de la vieille démocratie athénienne, ne sont pas aux prises avec l'expertise, puisque dans cette convention citoyenne, au fond, on le voit, moi j'ai un petit peu regardé les vidéos aussi, ils sont là à écouter, bien sûr, ils peuvent questionner des experts. Ce qui fait que...
Ils peuvent les convoquer aussi, parce qu'ils ne sont pas simplement des experts qu'on leur propose, ils peuvent demander à des gens de venir.
Oui, mais avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour des expérimentations de démocratie citoyenne, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement les tirés au sort sont-ils solubles dans l'expertise ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ne vont pas finalement faire une bonne synthèse, une bonne fiche de synthèse de ce que les experts leur
auront suggéré.
Voilà, et les experts eux-mêmes ne sont jamais évidemment totalement experts, totalement objectifs.
Mais cette démocratie parfaite est complète à mettre en œuvre, en tous les cas, cette démocratie.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les politiques publiques ont habilité un nombre tellement important d'acteurs, et chacun des acteurs pense avoir raison pour ce qu'il dit lui-même. Et tout le problème, c'est de savoir comment on fait une agrégation. Un lien entre les différentes paroles expertes.
Et puis, vous parliez tout à l'heure du combat des femmes, des questions raciales. Il y a cette intersectionnalité qui a été inventée par Kimberlé Crenshaw en 1989 et qui est très au cœur de nos discussions aujourd'hui. Il y a un article, d'ailleurs sur le site de France Culture que je conseille, de Chloé Loprin, sur ce terme d'intersectionnalité. Donc voilà, on n'est pas simplement blanche, on peut être blanche ou noire, femme, on peut être d'une classe sociale dominée ou au contraire supérieure, tout cela se mélange justement pour pouvoir réfléchir à un nous qui serait là une petite addition de tous ces nous dont on parlait tout à l'heure. Quand je dis une petite addition, une synthèse, pourrait-on dire.
Il faut faire attention toujours c'est-à-dire qu'on peut avoir, je schématise, mais en gros, dans le 1,99%, voilà, c'est dominant-dominé, mais à l'intérieur des groupes de dominés, il y a des dominations internes. Et donc, il faut toujours faire attention aux dominations internes qui peuvent exister à l'intérieur d'un groupe de dominés, et que le processus qui va conduire ce premier groupe de dominés à lutter contre la domination, si c'est ensuite pour perpétuer en son sein les mêmes d'autres dominations ou recréer des dominations à l'intérieur, ben en fait, on n'a pas vraiment été dans une forme d'émancipation collective. Donc, c'est sûr que c'est très important. Enfin, c'est la question des femmes au sein du mouvement ouvrier. Est-ce qu'il fallait attendre le grand soir pour enfin pouvoir espérer une égalité homme-femme, ou s'il faut mener les deux de front?
Un dernier mot, Benoît Coquart. Votre livre est paru maintenant depuis 2 ou 3 mois. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de ceux qui, au tout départ, vous disaient qui va lire un bouquin qui parle de nous? Est-ce que justement ceux qui sont au cœur de votre travail, ceux qui restent, qui ont fait leur vie dans les campagnes en déclin de l'Est de la France, ont eu un retour, vous ont donné un retour très brièvement de ce travail?
Oui, il y a eu beaucoup de retours. Après, c'est tellement varié, parce qu'il y a quand même des profils très différents dans le bouquin, donc les enquêtés sont pas tous au même, on n'a pas tous la même réaction, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être un petit peu la force de, d'une analyse qui objective, qui refroidit finalement des choses qu'on vit intensément. On se dit que finalement, on n'est pas tout seul à notamment, par exemple, subir des formes d'isolement, de domination. Et du coup, là, on se dit, on se met à dire nous parce que on a une forme de réflexivité qui se développe. En fait, on voit que finalement, il y a des déterminismes, il y a des choses qui, c'est un peu comme quand vous avez une maladie, vous croyez qu'elle est incurable et qu'on vous dit qu'elle est c'est un virus, que c'est saisonnier, ben d'un seul coup, vous vous sentez appartenir à un groupe plus large, ça vous réconforte parce que vous savez qu'on va vous guérir. Il y a un vaccin.
Merci.
Ben là, c'est un petit peu la même chose.
Quoi. Merci beaucoup, Benoît Coquart. Je rappelle que vous êtes auteur de Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin, un excellent livre à la découverte. Également, vous êtes, pour votre part, Mathilde Larrère, autrice de Il était une fois, les révolutions aux éditions du Détour. Et on passera des révolutions, évidemment, les grandes révolutions qu'on connaît, mais on parlera aussi des révolutions haïtiennes ou d'autres types de révoltes comme les spartakistes, bien évidemment. Et puis, quant à vous, Nicolas Rousselier, eh bien, on vous retrouve avec La force de gouverner, paru il y a 4 ans chez Gallimard. C'était Le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille, Louise André. À la technique aujourd'hui, Adèle Caglar. Et à la réalisation, Alexandre Manzanares.